soir. Deux sujets sont au centre de la tribune de la presse de ce soir. Il s'agit du retour de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Comme deuxième sujet, nous parlerons de l'élection de Louis-Alphonse Koyagialo comme gouverneur de la province de l'Équateur. Il succède ainsi à Jean-Claude Baïndé, limogé par le président de la République suite au conflit récurrent avec l'Assemblée provinciale de cette province. Tels sont les thèmes de la tribune de la presse de ce soir. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Giscard Koussema, il est directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Samuel, bonsoir confrères et bonsoir à tous.
Nous serons également avec Harold Bellarmin Badibanga, il est secrétaire de rédaction à la radio-télévision du groupe L'Avenir. Bonsoir Harold Bellarmin Badibanga.
Bonsoir confrères, bonsoir aimable auditeur.
Nous serons également avec Baba Isaac Kalongi, il est journaliste indépendant, il intervient depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï oriental. Bonsoir Baba Isaac.
Bonsoir mon frère.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le retour de l'abbé Apollinaire Malumalu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante et l'élection de Louis-Alphonse Koyagialo comme gouverneur de la province de l'Équateur ont occupé une large place dans les colonnes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Comment les journaux de Kinshasa ont traité ces deux sujets? Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Mathieu.
La prestation de serment ce vendredi des membres de la CENI à la Cour suprême de justice fait la une de la presse locale. Le quotidien La Tempête des Tropiques annonce ce matin la prestation de serment des nouveaux membres du bureau de la CENI. La cérémonie aura lieu à la Cour suprême de justice, selon la consoeur, alors que plusieurs organisations et partis politiques pensent que ces nouveaux animateurs de la CENI ne font pas l'unanimité et préparent le terrain de la contestation aux élections de 2016. La même information est relayée par la Prospérité qui estime que les choses vont vite et très vite même pour la mise en place effective de la nouvelle Commission électorale nationale indépendante en remplacement de l'équipe présidée par le pasteur Daniel Lengoi Mulunda. Le journal indique par ailleurs qu'il est admis que parmi ses priorités, dès l'entrée en fonction, cette équipe devra se pencher rapidement sur l'élaboration du chronogramme de façon à mettre fin aux institutions putatives dont l'existence se poursuit depuis 2006. La presse de cette semaine a fait également état de l'élection du nouveau gouverneur de l'Équateur. Forum des As titre, Louis-Alphonse Koyagialo, élu gouverneur de l'Équateur. Au terme du second tour de l'élection du gouverneur de l'Équateur organisé lundi 10 juin en Mbandaka, annonce Forum des As, le candidat de la majorité présidentielle Louis-Alphonse Koyagialo a obtenu 76 voix contre 27 pour Jean-Lucien Boussa qui s'est présenté en indépendant. Pour sa part, les potentiels annoncent que Louis-Alphonse Koyagialo, c'est l'expertise au service du développement de l'Équateur. Pour ce journal, l'élection de Koyagialo comme gouverneur de l'Équateur est le fruit d'une maturité auprès des grands électeurs qui ont matérialisé les vœux de la population, celle de tourner définitivement la page de la conflictualité dans la gestion de la province.
Merci beaucoup Guy Maté, Giscard Koussema. Je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur et nous profitons de cette occasion pour rappeler que depuis novembre 2011, le jour des élections de 2011, votre chaîne n'émet plus. Est-ce que nous pouvons en savoir plus et savoir où est-ce que vous en êtes avec les démarches pour la relance de votre média?
Et effectivement, nous nous apprêtons à célébrer les 2 ans de fermeture de Canal Futur. Nous n'avons cessé de dire ici que les raisons ne sont jamais connues, les décideurs non plus. Et en l'espace de 2 ans, ce dossier aura traversé toutes les institutions de la République. On rappellera ici que ce fut d'abord du domaine du CESAC. Le CESAC s'est dessaisi du dossier pour le renvoyer au ministère. Le ministère, alors que nous avons vidé tout ce qu'il y avait comme gris, s'est dessaisi à son tour pour nous envoyer à la justice. C'est la justice qui dit que le dossier est vide et nous avons parcouru toutes les juridictions ici, donc les dossiers n'existent pas. Et donc vous comprenez où se trouvent les problèmes à ces moments. Nous ne cesserons de dénoncer ici ces crimes économiques qui continue tout de même à noircir l'image déjà très sombre de ces pays en matière de liberté et d'expression. Et nous pensons ici que Canal Futur existe, et c'est une télévision congolaise, et nous ne ménagerons aucun effort pour dénoncer ces crimes économiques et cette entrave à la liberté de la presse.
Oui, jusqu'à Kousema, l'actualité cette semaine cite aussi la saisie et le retrait du marché par la police nationale congolaise de 30 tonnes de produits pharmaceutiques impropres à la consommation. Un petit commentaire par rapport à cette information.
C'est encore une fois l'image de la gabégie qui règne dans ce pays. Vous le savez, au-delà de cette actualité, il y a une autre qui est beaucoup plus implosive et dont on ne parle pas ou on parle très peu. Il s'agit de cette affaire de bancarisation des provinces qui n'ont pas de banque. Vous ne savez peut-être pas, ou parce peut-être qu'on ne sait pas accéder à cette actualité, dans les Bandundu où il n'y a qu'une seule banque et dont le siège ne se trouve qu'au chef-lieu, il y a des gens qui parcourent 400 kilomètres pour aller chercher les salaires dans une compagnie de télécommunications. Il y a des enseignants qui meurent en cours de route, des vieux enseignants qui n'ont jamais été. C'est une actualité brûlante dont on ne parle pas. Il y a encore ces scandales au niveau de l'Assemblée nationale. Bref, tout ça démontre que finalement, on est un état atypique et nous ne savons pas où nous allons.
Oui, Harold de Bellarmé Badibanga, je rappelle que vous êtes le secrétaire des rédactions à la radio-télévision du Corps de l'Avenir, la RTGA. Jusqu'à Kousema le disait déjà tout à l'heure, l'actualité cette semaine, c'est aussi le retrait de la pétition initiée par l'opposition contre le président de l'Assemblée nationale, Oubin Minako. Un petit commentaire.
Mais je me demande, mon cher confrère, pourquoi on appelle ça un scandale. Et est-ce qu'il y a eu anticonstitutionnalité dans cette démarche des députés de l'opposition qui, ayant initié leur pétition, l'ont constitutionnellement retirée? On veut nous dire que c'est le président de l'Assemblée nationale qui leur a demandé de la retirer. Non. Je crois savoir que tous journalistes que nous sommes par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, étant donné que c'est conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à la Constitution de la République, nous n'avons qu'à aller demander les vraies raisons auprès des initiateurs de la pétition qui l'ont retirée. Je crois savoir qu'il n'y a pas de raison à impliquer le président de l'Assemblée nationale ni l'Assemblée nationale elle-même prise in globo dans cette affaire. Par rapport au retrait des produits pas bons du marché de la consommation, je crois que le journaliste, par essence, milite pour le bien social. Je crois que nous devrions jeter des fleurs sur cette police qui a su prouver qu'elle est capable de faire quelque chose et l'a sauvé des vies humaines, étant donné que ça se fait dans tous les pays lorsque la police arrive à appréhender des produits non conformes à la consommation, elle les retire. Je crois que c'est un fait à féliciter.
Baba Isaac Kalonji, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant et vous intervenez depuis Mbujimayi au Kasaï oriental. Quelle est l'actualité qui a prévalu, mais qui est brûlante encore dans votre province cette semaine?
Ici chez nous, c'est l'opération bancarisation qui a fait couler encre et salive, du fait que toutes les entités ne sont pas représentées par les institutions financières pouvant permettre la liquidation de la paie du personnel, de l'État et même des enseignants. Donc c'est un point chaud au plan local, à moins que Kinshasa songe et pense autrement pour mettre un terme à cette situation qui prévaut à travers la province. Il y a des entités situées à une grande distance de la ville de Mbujimayi où se trouvent présentement les institutions financières qui peuvent aider à liquider la paie. Mais il y a d'autres entités qui n'en ont pas. Maintenant, c'est le cas de nos confrères de la RTNC qui ne sont pas payés depuis deux semaines. Ils émergent du bureau budget annexe, mais ils ne sont pas payés. Le salaire serré chez vous là-bas, placé dans une banque qui n'a pas de représentation ici. Et c'est paradoxal, on n'arrive pas à comprendre ça. Et nos confrères ne sont pas servis jusqu'à présent et toutes les autorités de Kinshasa nous entendent.
Je vous remercie sans transition. Nous abordons notre premier thème de ce soir. La nouvelle commission électorale nationale indépendante sera désormais dirigée par l'abbé Apollinaire Malumalu, président de l'ex-commission électorale indépendante, CEI. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale qui a entériné vendredi 7 juin dernier la composition de cette institution. Deux des six membres du bureau sont des femmes. Mais déjà, les membres de la CENI prêtent serment ce vendredi à la Cour suprême de justice. Cette cérémonie intervient après la publication mercredi 12 juin dernier sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise et l'ordonnance présidentielle portant investiture de la nouvelle commission électorale nationale. Par ce geste, l'équipe que dirige l'abbé Apollinaire Malumalu pourrait entrer en fonction. Plus de détails sur la composition de cette nouvelle équipe avec Askin Zigbia dans ce reportage.
Ils sont 13 membres qui composent la nouvelle CENI. 6 membres forment les bureaux. L'abbé Malumalu, issu de la société civile, en est le président. Il est assisté de André Pungwe, venu du parti politique PPRD, qui occupe le poste du vice-président. Jean-Pierre Kalamba de l'UDPS est désigné rapporteur avec comme adjoint Onésime Kukatula du PALU. Femme occupe la questure de la CENI. Il s'agit de Chantal Ngoy du MCR, questeur titulaire, et Micheline Bie-Bongenge du MLC, questeur adjoint. Les 7 autres sont désignés membres de la plénière de la CENI. Keta Lokonjo, Bangala Basila, Elodie Tamuzinda, Gustave Omba, Jean-Baptiste Ndundu, Kaputu Ngongo et Augustin Ngangwele. Ces membres sont issus de partis politiques AFDC, UNC, CCI et Société Civile. Selon le président de l'Assemblée nationale, le choix des membres de la nouvelle CENI a tenu compte de l'équilibre dans la représentation provinciale présentée par les différents groupes parlementaires et que le quota de 30% de représentation des femmes a été respecté.
Merci Askin Zigbia. En réaction, l'opposition parlementaire conteste la nomination d'Apollinaire Malumalu à la tête de la CENI. Pour le député national Fabrice Puella, ce choix atteste d'un agenda caché en faveur de la majorité présidentielle qui voudrait ouvrir la voie pour un troisième mandat à son candidat Joseph Kabila à la présidence de la République. Ce député membre de l'opposition s'est aussi dit triste de cette majorité mécanique qui accepte n'importe quoi alors qu'il a des grandes valeurs en son sein. De son côté, la majorité présidentielle affirme que l'opposition ne peut se permettre de contester le choix d'une autre composante. Pour Gaston Moussemena, député national de la majorité présidentielle, l'opposition n'a pas raison de contester la désignation de Malumalu qui s'est effectuée dans la légalité. Jusqu'à Kousema, nous venons de suivre dans ces dossiers diffusés que l'opposition s'oppose à la désignation de Malumalu à la tête de la CENI. Comment est-ce que vous analysez cette question?
Cela est d'abord prévisible. Rappelez-vous qu'il y a une semaine, nous nous disions ici que nous nous trouvions devant un vrai faux suspense, parce que la liste était connue d'avance avant même que le processus ne soit engagé. Alors, le problème ici, ce n'est pas, on ne doute pas de la compétence des animateurs. Nous avons beaucoup, je suis moi-même fouillé de jésuites, je suis un catholique. Nous reconnaissons donc beaucoup de valeurs intellectuelles dans le chef de l'abbé Apollinaire Malumalu. Personne ne doute aujourd'hui de sa compétence ni de sa présence à la tête. Mais tout le problème, c'est l'identité sous laquelle M. l'abbé se présente devant cette commission électorale.
Mais c'est quelle identité?
Mais justement, on le présente là-bas comme étant le fouillis d'une société civile, alors que la société civile elle-même est en train de protester. Et qui viennent pour le secourir, pour l'appuyer? C'est la majorité. Et vous voulez dire que tout cela est le fruit d'un hasard? Non. Pourquoi? Parce que le nom de M. l'abbé Apollinaire Malumalu était annoncé plusieurs mois avant.
Les confessions religieuses l'ont présenté.
Mais écoutez, il est de quelles confessions religieuses? Puisque vous voulez parler des confessions religieuses, à ce que je sache, monsieur l'abbé, vous l'appelez abbé, monsieur l'abbé Apollinaire, il est effectivement abbé, il est donc de l'église catholique, et on connaît la position de l'église catholique. Vous le savez bien. Alors, vous voyez qu'il y a des germes, et c'est là, il y a donc des germes de conflits, des germes de contestations, alors que si on revient de le départ à l'esprit qui a prévalu à l'éviction du pasteur Ngoï Mulunda, et c'est parce que justement il y avait des doutes par rapport à la neutralité de ceux qu'on nous a présentés. Et voilà, ils n'ont pas fait 2 ans, ils sont partis. Et donc, On revient à la case départ, on prend des animateurs qui certes ont des qualités intellectuelles incontestables, mais on leur fait porter des chapeaux qu'ils n'ont pas. Donc personne ne s'oppose. Si l'abbé Apollinaire était présenté par la majorité présidentielle, comme c'est le cas maintenant, il n'y aurait jamais eu cette discussion. Mais lui faire porter la société civile, alors que sa propre compétence, pardon, sa propre composante, lui nie cette qualité. Écoutez, chers amis, c'est peut-être chercher à écorner aujourd'hui toute la valeur de l'abbé qui a transcendé les frontières internationales.
Que la procédure n'a pas été respectée?
Non, justement. Écoutez, vous voulez que je vous donne un exemple? Nous sommes à l'université, nous sommes à l'école. On demande à chaque faculté de donner un représentant à la coordination des étudiants. Vous voyez des étudiants de médecine vous dire non, vous présentez quelqu'un qui fait l'agronomie en lieu et place de la faculté des droits. Donc nous nous retrouvons devant cette situation parce qu'il est censé être représenté par l'Église catholique. L'Église catholique vous dit, voilà, il y a incompatibilité. D'abord, il faut savoir s'il a présenté sa candidature, parce que si on devait respecter la procédure, donc l'abbé devait présenter sa candidature dans sa composante, et la composante présente la candidature au niveau des autres. Et donc, c'est par voie de presse que l'abbé. Et deuxièmement, l'abbé ne s'est jamais prononcé lui-même par rapport à sa propre candidature. Donc, vous imaginez que son soutien vient d'ailleurs et non pas de la composante.
Mais Giscard Kouassema, est-ce que les confessions religieuses qui ont présenté la candidature de l'abbé Apollinaire Malomalo n'y sont-elles pas de la société civile?
Écoutez, je ne voudrais pas ouvrir le débat sur le caractère civil de ce que nous appelons société civile. Ok? Donc, je ne voudrais pas ici parler spécifiquement des individus, s'il vous plaît. Mais puisqu'il dirige une institution, donc on peut se permettre de parler de lui, de l'abbé Malomalo, président de la CENI. J'insiste ici qu'il a des qualités que nous lui reconnaissons. Vous dites qu'il est de la société civile. Mais l'abbé Apollinaire, peut-être qu'en ce moment que nous sommes au studio, il est à Kampala là-bas. À Kampala, en train de discuter entre deux composantes, s'il vous plaît.
Vous les gouvernements congolais.
Il ne faut pas aller à Kampala pour comprendre que M. l'abbé Apollinaire Malomalo est parmi le délégué du pouvoir de Kinshasa. Donc c'est le pouvoir et la rébellion qui discutent, et l'abbé Apollinaire Malomalo se trouve du côté du pouvoir. Voilà.
Oui, Harold Bellarmé Badibanga, qu'est-ce que vous réagissez par rapport à ce que Giscard vient de dire?
Non, je ne veux pas suivre Giscard sur ce terrain marécageux. Je lui ai toujours donné un conseil que lorsque nous parlons des affaires de la République, nous devons les dépassionner. On ne peut pas aborder de questions avec des états d'âme. Nous devons plutôt les aborder avec l'âme des états. Je voudrais commencer par où Giscard a terminé pour parler de l'Église catholique, monsieur l'abbé Malomalo, société civile, confession religieuse. Je voudrais préciser ici, à l'intention de nos auditeurs, que Giscard et moi prions dans une même paroisse. Nous sommes catholiques, nous sommes appelés au respect du droit canon qui nous régit. Ici, d'abord, par rapport au mode de désignation du président de la CENI, l'Église catholique n'était pas seule mandatée à désigner un représentant comme président de la CENI, c'était un candidat qui viendrait des confessions religieuses. Et sur les 7 confessions, ou 8 confessions religieuses, toutes les autres ont opté pour M. l'abbé Apollinaire Malomalo. Seule l'Église catholique n'a pas voulu entériner. Au motif que quoi? Au motif que moi, l'Église catholique, à travers la CENCO, je n'accepte pas qu'un religieux, une religieuse, un prêtre arrive à ce poste-là sans mon aval. Maintenant, en bon journaliste, nous faisons quoi? Nous recourons au droit qui régit l'Église, le droit canon qui date depuis le 4e siècle et qui y a vu les prélats catholiques, dans, non seulement au Congo, mais dans d'autres pays, prendre des postes même éminemment politiques. Je rappelle qu'ici au Congo Brazzaville, monsieur l'abbé Fulbert Youlou était président du Congo. C'est pour dire quoi? Le droit canon précise qu'au-delà de tout ce qui a été dit, le prêtre doit se référer à la décision de son supérieur majeur. Le supérieur majeur.
Mais son supérieur majeur fait partie de la CENCO.
Il fait partie de la CENCO, mais Giscard sait que nous appelons les évêques chez nous, que les catholiques, les princes de l'Église. C'est-à-dire, il a le dernier mot et c'est le droit canon qui le lui concède. C'est-à-dire que la Synco s'est référée et ou doit se référer au supérieur majeur du prêtre. Ça, c'est le droit canon.
Le supérieur majeur du prêtre fait partie de la Synco.
Oui,
et la composante Synco a décidé. Vous ne pensez pas qu'il y a quelque part
un vice de procédure? Est-ce que la Synco est reconnue en droit canon? Je dis non en majuscule. Je dis tout simplement que cette structure qui existe au Congo et dans certains pays n'est pas reconnue dans le droit canon. Voilà pourquoi la Synco se réfère compte tenu du droit canon au supérieur majeur de M. l'abbé Malumalu qui est son évêque. Et lorsque Malumalu arrive à accepter, c'est qu'il a eu la bénédiction de son supérieur majeur. Ça, c'est de un. De deux, il ne faut pas que l'on se leurre lorsque l'opposition congolaise arrive à contester la présence de M. l'abbé Malumalu. Qu'est-ce que l'opposition congolaise a déjà entériné comme décision? Rien du tout. C'est une opposition de contestation servile, même lorsqu'il y a des réalités qui se posent à la République. Société civile.
Mais Harold Bellarmé Badibanga, vous ne pensez pas que la candidature de l'abbé Malumalu pose problème ensuite peut-être au précédent de 2006? Est-ce que on peut pas voir les choses de cette façon?
Non, mais dans ce pays, est-ce que moi je peux me fonder la conviction que dans ce pays, juste 1000 ans, à pas dater d'aujourd'hui, mon cher ami, il y aura une élection qui ne sera jamais contestée. Dans ce pays, même si c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui vient organiser les élections, il y aura toujours des contestateurs, étant donné que l'homme politique congolais n'est jamais prêt à accepter une défaite. Je finis par cette affaire de la société civile. Je dis, la société civile politisante, politiseuse et politiséique qui existe au Congo n'a même pas le droit de réclamer un poste, étant donné que elle doit être jusqu'au boutiste. Pourquoi réfuter Malumalu et accepter Jean-Baptiste Ndoundou et les autres qui viennent aussi de la société civile? Donc, c'est une façon de mettre la charrue devant le bœuf et leur position bat de l'aile. Ils doivent laisser les institutions de la République évoluer parce que nous avons besoin dans ce pays d'avoir des députés provinciaux de cette mandature, les sénateurs et les gouverneurs de province.
Oui, Baba Isaac, vous avez suivi Giscard Koussema et Harold Bellarmé Badibanga. Comment est-ce que vous analysez le choix de l'abbé Malumalu à la tête de la CENI?
Estimé confrère, je sens que l'abbé Apollinaire Malumalu jouit d'un préjugé favorable, à mon avis, du point de vue expertise, du point de vue maîtrise des données au niveau de la CENI. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, pouvez-vous savoir quelles sont les raisons qui ont milité en faveur de son départ pour que le pasteur Moïse Moulonde le remplace? Comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, il faut comprendre que l'appel lancé à l'abbé Apollinaire a double signification, c'est-à-dire qu'on a trouvé que les élections de 2006 organisées sous la conduite de l'abbé Apollinaire ont produit un résultat auquel on s'attendait par l'une des composantes sociopolitiques du pays. Maintenant, comme les latinistes disent, qui vis pacem paradellum, c'est-à-dire tout quiconque veut la paix doit préparer la guerre et celui qui veut aller loin ménage sa monture. Je comprends ce que les amis sont en train de dire. Vous savez vous-même à Kinshasa que ceux qui sont venus de la société civile pour les 11 provinces à l'élection de l'abbé Apollinaire ont été supportés par qui? Est-ce que vous connaissez qui avait supporté les billets de tous les membres de la société civile venant des 11 provinces du Congo? C'est la première question à laquelle vous pouvez répondre à partir de Kinshasa. Si vous ne le savez pas, je vous dis que c'est le gouvernement congolais qui a supporté les membres de la société civile électeurs de l'abbé Malumalu. Ça, c'est un constat et je le confirme, je le soutiens. Vous pouvez vérifier sur place pour savoir comment ils sont
arrivés. Mais Baba Isaac, vous vous basez sur quelle preuve pour attester cela?
Ça, c'est un point. Le deuxième point,
mais en fait,
contester la qualité de l'abbé Apollinaire du point de vue compétence, du point de vue connaissance du terrain en ce qui concerne la CENI, je me résigne pour dire que ceux qui disent qu'ils ne pouvaient pas être élus revoient leur position parce que le vin étant tiré, il faut le boire. Maintenant, nous attendons au résultat qui sera produit par le travail de celui qui a été remplacé en 2011 par Pasteur Ngoy Mulunda, pour des raisons que vous-même vous connaissez à Kinshasa, parce que moi je ne suis pas avec vous là-bas. Donc est-ce qu'on peut changer l'équipe qui gagne? Si Apollinaire Malmalou avait bien travaillé, pourquoi le gouvernement a tenu compte des méfaits et des contestations pour le faire partir, et parce que le peuple a réagi? Maintenant, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le même gouvernement le replace, lui fait confiance pour des raisons que vous seul vous connaissez. Moi, pas ici, moi en Boujima, je ne peux pas comprendre que c'est lui qui a perdu un match avec son équipe, on puisse le reconduire, à moins que vous me disiez autre chose.
Oui, Giscard Koussema, que peut-on alors attendre de la CENCO comme réaction à cette désignation de Malumalu à la tête de la CENI, une désignation qui s'est faite contre sa volonté?
Oui, je voudrais tout de même, avant de répondre à votre question, réclasser certains propos qui ont été dits ici et qui frisent le blasphème. Écoutez, moi, c'est un conseil à donner à nos confrères. Lorsqu'il y a une matière qu'on ne maîtrise pas, il vaut mieux c'est taire et ne pas se prononcer. Parce que l'Église, c'est l'institution, la première institution la mieux organisée. Et c'est l'une des institutions, des organisations privées, où les textes sont clairs et parce que écrits par de éminentes personnalités. Alors, parce que j'ai entendu ici une interprétation du droit canon, je voudrais vraiment pas me prononcer parce que j'en sais quelque chose, même si j'ai opté pour la laïcité. Alors, je voudrais dire ici qu'on comprend tout de suite que l'abbé vient là de cracher sur l'un des vœux qu'il prononce les jours de son sacerdoce. Et vous le savez, le premier vœu, c'est celui de l'obéissance. C'est le vœu qui est prononcé par tout prélat dès qu'il entame son ministère. Ce que la CENCO devrait faire, c'est quoi? C'est d'appliquer simplement, on va constater, et les lois sont impersonnelles au niveau de l'Église. Donc, on ne dira pas que voilà, monsieur l'abbé X, vous venez de faire ceci, on va simplement constater les choix pour lesquels il a opté, parce qu'il y avait un choix entre l'Église et la politique. Il fait son choix et il est libre et il peut garder même son poste. J'insiste, il peut garder son poste, mais bon, ce sera l'appeler. On l'appelait abbé, ce sera peut-être à titre honorifique. Or, à l'Église, les titres honorifiques n'existaient pas quand on a cessé d'être prêtre. Bon, on récupère son nom, voilà.
Giscard Koussema, qu'à cela ne tienne, quels sont les défis qui attendent de ce nouveau bureau?
Voilà, le premier défi, c'est d'abord, les grands enjeux d'ailleurs, c'est que cette commission nous précise, parce qu'il y a un flou sur lequel le pouvoir ne veut pas se prononcer. Nous devons organiser les élections. Le mandat du président de la République se prend fin en 2016. C'est constitutionnel, c'est connu. Et la constitution qui régit le pays est claire là-dessus. Curieusement, aucun officiel ne se prononce là-dessus. Donc, voilà le premier défi. Le deuxième défi, c'est par rapport à l'organisation même des élections. Vous imaginez, c'est le seul pays où on dit, la Constitution dit on a un mandat de 5 ans, mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont 8 ans, qui sont là depuis 2006, sans qu'on ne dise quoi que ce soit. Donc, il y a plusieurs défis. Les défis de crédibilité, tout d'abord. La neutralité vient déjà de tomber, on a vu, avec la désignation. Et donc, il reste ces défis-là et on attend à l'œuvre.
Harold Belarmé Badibanga, pour vous, quels sont les défis qui attendent ce nouveau bureau?
Je parle de défis tout en précisant d'abord que j'ai aimé le conseil de Giscard Koussema qu'il a appliqué lui-même, étant donné que tout en ne sachant pas trop sur le droit canon, il s'est abstenu de se prononcer par rapport à l'interprétation que j'ai faite, qui est du reste vraie. Le vœu de l'obéissance, donc, question par rapport
les défis,
à j'y arrive. Le vœu de l'obéissance par rapport, qui est fait par un prêtre, c'est par rapport à son évêque. Je le dis et tous les canonistes de l'Église me suivent. Je dis tout simplement que, au nombre de défis, il y en a beaucoup. La neutralité, elle est là parce que l'Église, monsieur l'abbé Malumalu, comme je l'ai entendu de la bouche de Baba Isaac Allongé en Boujima et même de Giscard Koussema, n'est pas une émanation d'une composante entre le gouvernement de la République et l'opposition. Tout ce qui est fait, c'est du chahut, du raccordement frauduleux, étant donné que il a été choisi par les membres des confessions religieuses. Les défis qu'il y a, c'est que Giscard Koussema ouvre, force l'ouverture d'une portes ouvertes. Si la CENI est mise en place maintenant, c'est pour vider cette affaire de députés, des sénateurs, des députés provinciaux et des gouverneurs qui ont un mandat au-delà de celui constitutionnellement garanti. C'est le premier des défis. Mais pour que ce bureau de la CENI y arrive, il a besoin de l'accompagnement de tous et principalement des politiciens véreux qui non seulement utilisent la corruption et des moyens illégaux pour vouloir se faire élire, mais aussi qui ne sont pas prêts à accepter un échec aux élections, et ça c'est le mal du Congolais. Jusqu'à Koussema doit les aider à comprendre que à une élection, on peut réussir tout comme on peut échouer et l'accepter sportivement.
Baba Isaac, pour vous, quels sont les défis qui attendent ce nouveau bureau en un mot?
Le premier défi pour ce bureau qui vient d'être mis en place par ordonnance, c'est le budget. Je ne sais pas moi que la CENI actuelle puisse être capable de disposer d'un budget, un outil de travail performant pour faire face à des dépenses de routine pour une structure qui se veut nationale. Ça, c'est le premier grand défi. Le deuxième défi, c'est la neutralité. Je ne vois pas comment les membres de la CENI actuelle vont accepter d'être neutres patriotiquement, faisant allusion aux normes démocratiques dont il faut absolument avoir un respect. Je doute, mais c'est le deuxième défi. Le troisième défi, c'est que la CENI qui sera représentée dans les provinces ne soit pas cette CENI que nous avons vue qui a été corruptible, qui a même été capable de nommer les députés et les représentants du peuple. Donc, il y a autant de défis, mais parmi lesquels je cite les trois premiers là qui m'inquiètent. Je ne sais pas si ça va marcher, de quelle manière, si les partenaires extérieurs feront confiance en cette nouvelle CENI pour accorder leur concours, et que au plan national,
merci,
nous n'avons jamais un budget national voté et respecté et exécuté.
Baba Isaac,
je verrai la part du gouvernement face aux défis que la CENI doit relever.
Baba Isaac, je vous remercie et sans transition, nous passons au deuxième sujet de ce soir. À l'Équateur, comme vous le savez, c'est Louis-Alphonse Koya Diallo, candidat de la majorité présidentielle, qui a été élu lundi dernier au poste de gouverneur de cette province. Le tout s'est joué au second tour. Face à lui, Jean-Lucien Boussa, cadre du MRC, mais qui s'est présenté comme indépendant. Des précisions avec Dominique Olongi Mongapangi.
Louis-Alphonse Koya Diallo, avec son colistier Sébastien Ipeto du PDC, qui a obtenu 76 voix sur 104 votants, a largement devancé son adversaire Jean-Lucien Boussa, qui a récolté 27 voix. On croyait, selon les pronostics de deux camps, que la partie serait serrée, mais la réalité de l'urne a prouvé le contraire. Koya Diallo l'a largement emporté. Jean-Lucien Boussa, cadre du MLC, qui s'est présenté comme indépendant, en est à sa deuxième participation à cette élection. À la première, il avait été battu par Jean-Claude Baïndé, gouverneur sortant limogé. Quelques mandataires interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette élection. C'est le cas de certains membres de la société civile. Pour les personnes abordées, Louis-Alphonse Koya Diallo, comme Jean-Lucien Boussa, arrivé en tête au premier tour, répondaient tous deux au profil de l'homme qu'ils attendaient pour diriger la province de l'Équateur, qui accuse un certain retard de développement. Comme ce fut le cas avec l'équipe Baïndé, l'Équateur reste sous la direction d'un exécutif issu de la majorité présidentielle. Et pourtant, la province était réputée dominée par l'opposition du fait qu'à l'Assemblée provinciale, la majorité des députés sont issus de cette plateforme. Mbandaka, Dominique Olombi Mongapangé, Radio Okapi.
Pour le nouveau gouverneur, c'est plutôt une victoire de la démocratie. Se confiant à la presse juste après l'annonce des résultats, Koya Diallo a affirmé que la population de l'Équateur peut compter sur lui pour l'unité de la province. On l'écoute dans ses propos recueillis par Régine Boku Manzango.
Pour moi, c'est une grande consolation, c'est aussi un réconfort pour que je me dise que je suis parmi les miens, et étant parmi les miens qui me soutiennent, nous allons ensemble relever les grands défis qui se posent sur le chemin du développement de la province de l'Équateur. Et je sais que la tâche est très difficile, mais si nous nous mettons ensemble avec la parole de chacun, et surtout avec le soutien de Dieu, nous allons réussir.
En réaction, Jean-Lucien Boussa, candidat malheureux à cette élection, met quant à lui en cause la qualité de ce scrutin. Il dénonce la corruption organisée, d'après lui, par la majorité, allant jusqu'à condamner le comportement des députés provinciaux. Giscard Koussema, comment est-ce que vous expliquez qu'une assemblée provinciale, qui du reste est dans son ensemble ou dans la grande partie composée de l'opposition, puisse élire un gouverneur acquis à la majorité?
On ne le dira jamais assez, la République démocratique du Congo, notre pays, est un État atypique. Est un État scandaleux à tout point de vue. Et ces scandales montrent justement qu'il existe maintenant une démocratie à la congolaise. Avant de répondre, je vous donne un exemple. Aux États-Unis d'Amérique, le président de la République est déclaré élu à partir de quel moment? À partir du moment où le sénateur, qui sont ces grands électeurs, dès lors qu'ils ont la majorité, le président de la République est proclamé, vous le savez. Et le reste n'est qu'une formalité qui vient plusieurs mois plus tard. Je ne l'apprendrai pas à mes confrères, je ne l'apprendrai pas non plus à nos fidèles auditeurs qui savent comment les choses se passent. Il n'y a que en République démocratique du Congo où une province à la majorité, dont la majorité s'est connue, toutes les élections l'ont prouvé, je ne sais pas s'il faut d'autres études pour les démontrer, à la présidentielle, aux législatives, aux provinciales, et même sur les plans sociologiques, c'est connu que cette province est à majorité dirigée par, constituée de l'opposition, et curieusement, c'est un gouverneur de la majorité qui est élu. Nous n'avons cessé de le dire sur vos antennes ici. Si la rationalité était un paramètre important dans la politique congolaise, comme cela est le cas ailleurs, on n'arriverait pas à ce genre de scandale. Mais il faut justement que ce genre de choses arrivent pour que nous comprenions quel est le niveau de la démocratie congolaise, ce qui peut se passer dans notre pays. Donc, sur base de quel critère?
Je t'en prie, juste pour abonder dans le même sens que vous, est-ce que vous savez que l'opinion publique est changeante? La même opinion qui pouvait être acquise à l'opposition hier, aujourd'hui peut évoluer?
L'opinion publique, je veux bien. Mais est-ce que vous pensez que c'est l'opinion publique en Mbandaka, c'est la fête parce que il y a un gouverneur de l'opposition qui est de la majorité qui est élu, vous pensez? De quelle opinion publique vous parlez? Écoutez, nous sommes ici devant une situation scandaleuse. Parce que, au sortir, je suis journaliste, donc j'ai aussi mes organes, mes réseaux d'information. Après l'élection, lorsqu'on tend le micro, personne n'a dit clairement, au contraire, tous ceux qui ont voté se réfugient dans les 26 pour dire que tous ont voté pour leur candidat. Personne publiquement ne reconnaît avoir élu. Ça signifie que les gènes, ça les gêne et pourtant c'est le résultat des urnes. Donc même ceux qui ont élu eux-mêmes sont gênés de les dire tout haut.
Là, ça
donc vous
que
comprenez
vous, hein.
Qu'il y a quelque chose. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Cela s'est passé avec Baïndé. Mais vous verrez que la cohabitation sera difficile et nous ne ferons que revenir sur ces cycles et c'est dommage pour la province de l'Équateur. Mais moi, je pense que pour notre démocratie, un peu d'honneur, c'était la seule province connue pour l'opposition. Je ne sais pas ce que le pouvoir a gagné, bien au contraire, c'est un mauvais signal qui donne à l'opinion nationale, internationale, et pour que tout le monde comprenne comment les choses se passent ici.
Oui, Harold Badibanga, Koya Gallo est élu gouverneur. Quels sont les défis qui peuvent l'attendre, lui?
Mais quand même un mot par rapport à cette victoire de la démocratie que l'on nie ex cathedra. Je regrette pourquoi on ne peut pas comprendre pourquoi un gouverneur élu démocratiquement, une élection non contestée, on pense que c'est un scandale. C'est un scandale en quoi? On veut dire qu'on doit caricaturer ou embarcader les députés provinciaux parce qu'ils sont de tel bord et lorsqu'ils se rendent compte que le candidat présenté par leur composante ne fait pas l'unanimité. On a parlé de la conflictualité. C'est dans ce studio la semaine passée que les députés fassent n'importe quel choix. Ça, c'est de 1, 2. Le même cas s'est produit lorsqu'il s'est agi de la majorité. Les cas sont légion. La majorité a perdu des élections alors que le candidat qui a été désigné n'a pas été élu, c'était un indépendant qui a été élu. Les mêmes gens qui crient au scandale à l'Équateur aujourd'hui ont félicité en disant la majorité a échoué. Non, nous devons être jusqu'au boutiste dans la démarche.
Les défis
sont clairs. La province de l'Équateur a été instable, sous-développée à cause des aspects tribalo-ethnico-claniques. L'Équateur vit sous la houlette de ce clivage nord et sud d'Ubangi. Si Koya Gyalo peut prendre ce conseil pour comprendre que même dans la composition de son gouvernement...
Mais on dit que c'est Kinshasa qui tire les ficelles.
Mais je suis revenu sur cette affaire de Kinshasa pour dire que Kinshasa là n'est pas seulement la majorité comme on a voulu le faire comprendre. Kinshasa est vaste, qu'on nomme les gens, étant donné que même dans l'opposition, il y a des gens qui ont envoyé leurs gens là-bas pour contrecarrer certaines candidatures de l'opposition. C'est connu de tous. Et ça, il faut le prendre positivement et sportivement, étant donné que je l'ai toujours dit, mon cher ami, dans la politique, il n'y a pas de cadeau à se faire. C'est une bataille rude. Je regrette qu'on me dise ici, c'était la seule province de l'opposition. Comme si constitutionnellement, on a dit dans ce pays, telle province doit appartenir à l'opposition compte tenu de son gouverneur, telle autre par rapport à la majorité. Non, ça ne se passe pas ainsi. Ce qui est arrivé, c'est la victoire de la démocratie. Koya Gyalo doit se battre pour fédérer tout le monde autour de lui pour le bien-être de la province, surtout en excluant le clivage nord et sud d'Ubangi, qui fait qu'aujourd'hui la province vive sous des tensions tribalo-ethnico-clanistes.
Oui, Baba Isaac, pour terminer, comment est-ce d'abord vous analysez l'élection du gouverneur Koya Gyalo à la tête de la province de l'Équateur, et qu'est-ce qu'il peut faire, lui, le gouverneur Koya Gyalo, pour que l'Équateur ne retombe plus dans les crises institutionnelles interminables comme on l'a observé dans le passé?
Je salue l'opération des élections qui a donné naissance à la victoire de lui, Koya Gyalo, que je connais personnellement bien, mais vous n'êtes pas sans savoir que Koya Gyalo est à la base de l'édite Mboka qui s'est passé à Lubumbashi il y a des années. Il était de la majorité mobutiste, connue de tout le monde. Aujourd'hui, il est de la majorité présidentielle kabiliste, connue de tout le monde. Ça, vous devez le savoir. Et vous devez aussi vous attendre au fait que sa talité, c'est-à-dire le fait d'être converti au kabilisme, tout en étant hier mobutiste, ça donne quel effet par rapport aux attentes de sa population, de cette province riche. Et enfin, si l'élection lui donne la victoire par rapport aux exigences démocratiques, je ne peux que le lui concéder. Mais que deviendra-t-il face aux exigences de son peuple, ceux qui l'ont vu venir comme gouverneur et qui l'ont vu gérer la province du Katanga à l'époque du mobutisme, avec tout ce que cela a pu comporter comme conséquence néfaste face à ce qu'on a appelé longtemps l'Ititi Mboka. Maintenant, il prend la province d'origine, la province chère. Va-t-il se comporter comme il s'est comporté au Katanga? C'est une question à laquelle les gens qui défendent son élection peuvent répondre. Deuxièmement, son élection, même si c'est entaché d'irrégularité, c'est-à-dire si la corruption a joué un rôle néfaste au cours de l'élection, nous acceptons, c'est aussi une loi démocratique, mais tout dépend de la manière dont Louis Koya Gyalo va se comporter face à la misère de sa population, aux exigences du souverain primaire et même aux impératifs du moment. Les enjeux sont de taille, on va voir comment il va se comporter. Donc que tous ceux qui aujourd'hui ne peuvent pas accepter son élection c'est pèse parce que la majorité s'est prononcée en sa faveur. Je l'accepte.
Justin Koussema, un petit mot avant de terminer cette émission.
Oui, nous voulons dire ici, on ne peut pas être un pays démocratique et ne pas donner des signes élémentaires d'une démocratie. Donc, nous ne sommes pas qu'un pays démocratique de nom, je l'ai toujours dit. Parce que s'il ne s'agissait que d'être démocratique du nom, à travers la planète, il n'y aurait que deux républiques démocratiques qui sont la Corée du Nord et la République démocratique du Congo. Et vous savez que ces deux pays ne sont pas de bons exemples en matière de démocratie. Et donc, la démocratie rime aussi avec deux pratiques démocratiques. Commencer à respecter les choix idéologiques
idéologique d'un groupe et n'ont pas assisté à ce qu'on est en train de voir maintenant.
Harold Badibanga, votre conclusion.
Ma conclusion, c'est que la démocratie en République démocratique du Congo se porte très bien qu'hier ou avant-hier, étant donné que ce qui est arrivé à la CENI avec l'Assemblée nationale qui a avalisé le bureau de la CENI, ce qui est arrivé dans la province de l'Équateur, c'est l'expression directe de la démocratie des élus. Nous devons, en tant que journalistes, encourager ceci pour que nous puissions aller de l'avant. Nous ne sommes pas dans une démocratie atypique, nous sommes dans une démocratie réaliste, un idéal à atteindre tôt ou tard.
Harold Badibanga, c'est avec vous que nous mettons un terme à cette émission. Paul Badianama était à la technique, Guy Matt était à la réalisation et Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Pelle Kipelamondo. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end à tous sur Radio Okapi.